Imaginez un instant, vous cédez votre entreprise, le fruit de votre travail, pour une somme très confortable. On parle de 11 millions d'euros. Le contrat est signé, mais il y a un bonus, la fameuse cerise sur le gâteau. 1 million d'euros de plus, si une condition est remplie.
D'accord.
Quelques jours plus tard, miracle, la condition se réalise. On s'attend à recevoir son million, logiquement, mais il n'arrive jamais.
Jamais.
Et pourquoi ? À cause d'une seule phrase. Une clause un peu floue. Et cette phrase va déclencher une bataille juridique de plus de 15 ans.
C'est une histoire qui a vraiment tout d'un thriller juridique. Et pour la comprendre, notre source aujourd'hui, c'est le point final de cette saga.
C'est ça.
C'est un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui date du 23 septembre 2025. Et ce document, il ne raconte pas juste une histoire d'argent, non. Il dissèque la responsabilité, l'immense responsabilité de ceux qui rédigent les contrats, ceux qui choisissent les mots.
Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans cette affaire pour comprendre comment une petite ambiguïté dans un acte de vente a pu non seulement priver des vendeurs d'un million d'euros, mais a fini par faire condamner l'avocat qui l'avait rédigé. On va voir ensemble comment la précision des mots peut valoir de l'or et leur imprécision, ben, des années de cauchemar. Alors, commençons par le début. Par ce fameux contrat.
Allons-y.
Le décor est planté, on est le 9 juillet 2008. Des actionnaires vendent leur société. Le prix, on l'a dit, 11 millions d'euros. Mais dans l'article 8, il y a ce fameux complément conditionnel de prix. 1 million d'euros.
La société qui est vendue possède une filiale, qui est une carrière de GNES dans le Morbihan. Et pour toucher le million, il faut que cette carrière obtienne une nouvelle autorisation de la préfecture.
D'accord.
Une autorisation pour doubler sa production, passer de 150 000 à 300 000 tonnes par an. Et cette autorisation doit être obtenue avant le 31 décembre 2013.
Ils ont donc plus de 5 ans devant eux. C'est une marche confortable, 5 ans. Mais ce qui est fou, c'est que ça ne va pas du tout prendre 5 ans.
Ah non, c'est là que l'histoire s'accélère de manière incroyable. La vente est signée le 9 juillet. L'autorisation préfectorale, elle tombe le 24 juillet 2008.
15 jours plus tard.
15 jours.
C'est incroyable. On se dit que l'affaire est pliée, champagne pour tout le monde. Les vendeurs ont rempli leur part du marché en un temps record. Logiquement, ils réclament leurs millions.
C'est ce qu'ils font, bien sûr. Mais l'acheteur, la société 3-6, refuse. Un refus net.
Et pourquoi ?
Leur refus tient à un détail. Une petite phrase nichée dans l'arrêté du préfet.
Ah.
L'autorisation d'augmenter la production est bien accordée, oui. Mais le texte précise que cette augmentation ne sera, je cite, effective qu'après mise en service du nouvel accès à la carrière.
Oula.
En clair, tant qu'une nouvelle route n'est pas construite, eh bien la production reste plafonnée à 150 000 tonnes.
Ah, et voilà le piège qui se referme. C'est un argument redoutable de la part de l'acheteur. Il joue sur les mots de manière brillante, en fait.
Totalement.
Vous vouliez une autorisation pour produire plus, mais cette autorisation ne me le permet pas concrètement aujourd'hui. On a d'un côté les vendeurs qui disent « le contrat parlait d'obtenir l'autorisation ». Point final.
C'est ça.
Et de l'autre, l'acheteur qui rétorque, l'esprit du contrat, c'était de pouvoir extraire plus, ce qui est impossible sans la route.
C'est exactement ça. Et cette divergence d'interprétation, eh ben, ça les mène tout droit au tribunal. C'est le début d'une première et très longue procédure. Vendeur contre acheteur.
Et je l'imagine que devant les juges, c'était parole contre parole.
Exactement. Une bataille d'interprétation pure et dure.
Exactement. D'un côté, les vendeurs sortent le contrat. Ils disent « Regardez l'article 8, le mot « route » n'écrit nulle part ».
Logique. La seule condition, c'était l'obtention de l'arrêté préfectoral. On l'a. Et de l'autre, l'acheteur qui répond « Mais non, l'intention économique commune était évidente. Le million d'euros, c'était une prime à la performance, liée à une augmentation réelle et immédiate de la production, pas à un simple bout de papier. »
Et comment la justice, comment elle tranche quand une clause est à ce point ambiguë ?
Elle applique une règle fondamentale du droit des contrats. En cas de doute, une clause s'interprète toujours en faveur de celui qui doit de l'argent, donc le débiteur, et contre celui à qui l'argent est dû, le créancier.
D'accord.
L'idée, c'est de protéger la partie qui s'engage à payer. Du coup, face à ce flou, les tribunaux jusqu'à la cour d'appel en 2019 ont donné raison à l'acheteur.
Fin du premier acte, donc. Les vendeurs ont perdu, le million d'euros s'est définitivement envolé. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, après plus de 10 ans de procédure.
On pourrait. Mais pour les vendeurs, la pilule est... elle est trop amère. Ils ont le sentiment d'avoir été floués par une technicité juridique, alors ils changent leur fusil d'épaule. S'ils ne peuvent plus se retourner contre l'acheteur, il leur reste une cible. La personne qui est à l'origine de cette ambiguïté.
Celui qui tenait la plume.
L'avocat qui a rédigé l'acte de vente, Maître T.
Précisément. Il lance une deuxième procédure, cette fois pour engager sa responsabilité civile professionnelle.
D'accord.
Et leur raisonnement est simple. Si cette clause avait été claire, nous aurions touché notre million. Votre mauvaise rédaction nous a causé un préjudice d'un million d'euros. Vous devez nous le rembourser.
Quelle est la défense de l'avocat face à une accusation pareille? Il doit être dans une position très délicate.
Très. Sa défense repose sur un point technique important, son statut de rédacteur unique.
Rédacteur unique?
Oui, c'est une position délicate. Il explique qu'il n'était pas l'avocat d'une partie contre l'autre. Il a été choisi par les deux pour mettre en forme leur accord commun. Il se présente donc comme une sorte d'arbitre neutre.
Ah oui.
Il dit « Mon rôle, c'était de transcrire votre volonté. Et pour moi, votre volonté commune était claire. Le bonus n'était dû qu'en cas d'autorisation effective d'extraire plus. »
L'argument de la neutralité. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de responsabilité? Ça semble un peu facile comme défense.
C'est justement ce que la Cour d'appel va démonter. Elle rappelle les obligations fondamentales d'un avocat rédacteur d'actes. Il doit garantir, je cite, « la validité et la pleine efficacité de l'acte ».
La pleine efficacité?
Et surtout, il a un devoir de conseil envers toutes les parties. La neutralité ne le dispense pas de ce devoir. Au contraire, son rôle, c'est de protéger les deux camps contre les risques juridiques, y compris les risques créés par une clause mal définie.
Attendez, mais le plus fou dans cette histoire, c'est que ce problème de route n'était pas un détail technique découvert après coup. Si, ce n'est pas sorti de nulle part.
C'est le point le plus accablant du dossier. C'est le coup de grâce pour la défense de l'avocat.
Ah bon?
Non seulement tout le monde était au courant de la nécessité de cette nouvelle route avant de signer, mais des documents qui le prouvaient, des courriers, des échanges avec la préfecture, étaient annexés au contrat de vente lui-même.
C'est incroyable. Il a littéralement joint les preuves de l'ambiguïté potentielle à son propre acte.
Exactement.
Il ne pouvait donc pas plaider l'ignorance.
Absolument pas. Et c'est là que la Cour identifie sa faute. Sa faute, ce n'est pas d'avoir mal interprété l'intention des uns ou des autres. Non, c'est de ne pas avoir vu le risque évident d'interprétations divergentes. Et de ne pas avoir agi.
Il aurait dû alerter.
Il aurait dû s'arrêter et dire « Attention, clarifions ce point. Est-ce que le bonus est dû à la signature de l'arrêté, quels que soient les travaux à faire, ou est-ce qu'il est dû quand la carrière peut réellement produire 300 000 tonnes ?»
D'accord.
En ne posant pas cette question, en laissant ce flou, il a créé une bombe à retardement juridique. Sa faute est donc confirmée.
D'accord. Donc, la faute de l'avocat est actée. Il a laissé un flou qui a coûté un million. Mais ça soulève une question encore plus complexe. Et peut-être la plus fascinante de cette affaire.
Laquelle?
Est-ce que sa faute égale un préjudice d'un million d'euros? Comment la justice peut-elle être sûre que, même avec une clause parfaite en faveur des vendeurs, l'acheteur aurait accepté de signer?
C'est toute la question. On ne peut pas refaire l'histoire. Les vendeurs, eux, ils réclament le million. Mais la justice ne peut pas leur donner car ce serait affirmer avec 100% de certitude que le deal se serait fait à leurs conditions.
Bien sûr.
C'est là qu'intervient un concept juridique clé, la perte de chance.
La perte de chance, c'est-à-dire qu'on n'indemnise pas la perte du gain lui-même, mais la perte d'une probabilité de l'obtenir.
C'est ça. On essaye d'évaluer, en pourcentage, la probabilité que les vendeurs avaient de toucher leur million si l'avocat avait fait son travail correctement.
Mmh.
Et cette évaluation va donner lieu à un rebondissement spectaculaire. Le tribunal de première instance, en 2023, se penche sur la question et il estime que cette chance était en fait assez faible.
Ah oui.
Mmh. Il la fixe à seulement 10%.
10%. Ce qui veut dire une indemnisation de 100 000 euros à se partager entre tous les vendeurs. Après plus d'une décennie de combats, ça doit être une douche froide monumentale.
C'en est une. Les vendeurs, évidemment, font appel de cette décision. Ils estiment que leur chance était bien plus élevée.
On les comprend.
Et c'est là que la Cour d'appel de Rennes va se livrer à une analyse économique quasi chirurgicale du contexte de la vente de 2008.
Elle ne se contente pas de regarder le droit, elle. Elle se met dans la peau des négociateurs de l'époque.
Totalement. La Cour va chercher des indices dans le dossier pour évaluer le rapport de force réel entre vendeur et acheteur. Et elle trouve trois éléments déterminants.
D'accord.
Premièrement, les vendeurs avaient d'autres offres concurrentes sur la table pour le rachat de leur société.
D'accord, donc ils n'étaient pas acculés. Ils avaient d'autres options.
Deuxièmement, et c'est un point crucial, l'acheteur lui-même, la société 36, avait qualifié cette acquisition d'opportunité stratégique dans ses documents internes.
Ah, intéressant.
C'était un achat très important pour leur implantation en Bretagne. Ils voulaient vraiment cette carrière.
Ils n'étaient pas en position de force absolue pour dicter toutes les conditions, donc.
Et le troisième élément?
Le troisième, c'est le coût des fameux travaux pour la nouvelle route. Il était estimé à environ 369 000 euros. Et sur cette somme, seule la moitié était à la charge de la filiale rachetée.
Donc un coût réel d'un peu plus de 180 000 euros?
Oui.
C'est une goutte d'eau par rapport au prix de vente de 11 millions, et même par rapport au bonus d'un million. Ce n'était clairement pas un obstacle financier majeur pour l'acheteur.
Précisément. Et en assemblant ces trois pièces du puzzle, des vendeurs avec des offres alternatives, un acheteur très motivé et un surcoût potentiel assez faible, la cour d'appel arrive à une conclusion radicalement opposée à celle des premiers juges.
D'accord.
Elle estime que la probabilité que l'acheteur accepte une clause plus claire et plus contraignante était en fait majeure. Et ce majeur, elle le chiffre.
Oh que oui. Et le chiffre est spectaculaire. La cour fait passer l'évaluation de la perte de chance de 10%
oui.
à 80%.
80%. C'est un retournement de situation complet. L'indemnisation totale passe donc de 100 000 euros à 800 000 euros. C'est incroyable. Ce n'est plus juste une question de droit, c'est une analyse économique quasi forensique. La cour ne se contente pas de dire « l'avocat a fait une erreur », elle quantifie l'impact de cette erreur en se mettant dans la peau d'un négociateur.
Pour donner un exemple concret, l'un des vendeurs, M. W.J., devait toucher 32 000 euros dans le premier jugement. Après l'arrêt de la cour d'appel, son indemnité passe à 256 000 euros.
C'est un changement radical.
Radical. En revanche, la cour reste stricte sur le reste. Elle refuse de les indemniser pour les frais d'avocat de leur premier procès contre l'acheteur ou pour un éventuel préjudice moral.
Pourquoi ça?
Parce qu'elle estime que le lien de cause à effet avec la faute de l'avocat n'est pas assez direct.
C'est une leçon incroyable sur le pouvoir des mots en affaires. Un adverbe, une précision manquante, et les conséquences se comptent en millions et en plus de 15 ans de procédure.
Au final, cette décision est un rappel spectaculaire du poids de la responsabilité qui pèse sur les rédacteurs d'actes. Une clause qui, à première vue, semblait peut-être un simple détail technique,
oui.
mais qui contenait une ambiguïté latente, a suffi à générer un conflit tentaculaire et à déplacer un enjeu financier d'un million d'euros de la poche de l'acheteur vers celle de son propre avocat.
Une histoire qui montre que la clarté n'est pas une option, c'est une obligation. Et que l'anticipation des conflits est au cœur du métier de celui qui rédige.
Tout à fait. Et la décision de la cour en fixant la chance à 80%, elle laisse une dernière question fascinante en suspens.
Ah.
Qu'en est-il des 20% restants? C'est la part de risque que la cour estime qu'il y avait. Le risque que l'acheteur, mis au pied du mur par une clause plus contraignante, ait pu dire « non, dans ces conditions, je me retire ».
Et renoncer à toute l'opération à 11 millions.
Voilà. Cela nous interroge sur le véritable équilibre des forces dans une négociation à haut risque et sur la part immense qui repose parfois sur la vigilance d'une seule personne, celle qui tient la plume.